que dans le public, on va trouver tout un tas de positionnements par rapport à cette question du sectarisme. Donc là, on ne va pas non plus définir ce que c'est qu'une secte, une dérive sectaire. Je crois qu'on l'a déjà fait un petit peu par le passé. C'est un peu complexe. Il faudrait couper un peu des cheveux en quatre. Là, on va se cantonner à ce qu'on entend par secte et dérive sectaire au sens commun, ce qui finalement est tout à fait pertinent. Donc, dans le public, vous allez trouver des gens qui vont dire les sectes ou les dérives sectaires, est-ce que ça existe? Bon, de toute façon, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Par ailleurs, il y a des gens qui vont trouver qu'on émet des jugements de valeur en disant que peut-être on porte atteinte à la liberté de croyance, à la liberté de conscience. Et puis, vous avez aussi des gens qui disent que ceux qui sont soi-disant victimes, c'est leur problème, ils n'avaient qu'à pas y aller. Et il faut être un peu nunuche pour se faire attraper à ce point-là, parce que quand on voit effectivement ce qui se passe dans ces milieux-là, on se dit, mais c'est pas possible. D'ailleurs, les adeptes eux-mêmes, quand ils en sortent, ils disent, mais comment on a pu se faire avoir à ce point-là et accepter des choses aussi outrancières. Bon, il y a aussi, après une période un petit peu de vulgarisation de la chose dans les médias, hein, qui ont fait un très bon travail quand même, ne serait-ce qu'en présentant des cas, même si c'est souvent sous l'angle un peu spectaculaire, un peu dramatisant, parce que ça fait de l'audience, il y a une meilleure connaissance du public de ces questions-là. Et puis il y a Internet qui fait que maintenant les gens qui ont des interrogations, ils vont d'abord sur Internet et ils trouvent beaucoup de renseignements. Ils nous en apportent même souvent. L'acuité du phénomène a pu être aussi relancée par la radicalisation, puisqu'on a quand même évoqué souvent la question de l'emprise de nature sectaire et des techniques sectaires dans les phénomènes d'attraction des jeunes et de mise sous dépendance avec la radicalisation islamiste. Bon, et puis après, on peut considérer, pour ceux qui ont déjà entendu parler de choses depuis assez longtemps, puisque la première fois que les pouvoirs publics s'en sont emparés avec une couverture un peu nationale, c'était à l'occasion d'une commission d'enquête parlementaire en 1995 qui a voulu faire une liste de sectes. Donc il y a eu une liste de 174 sectes recensées, bon, c'est plus actuel. Mais du coup, on va se dire, c'est vieux comme le monde, est-ce que c'est pas un défi chronique? Et est-ce qu'un jour on va pouvoir en finir? Ou est-ce que vis-à-vis des atteintes, des dérives qui sont faites sur un certain nombre de publics fragiles, un certain nombre de gens fragiles, est-ce qu'on peut faire cesser ça? Donc c'est déjà un petit peu une des questions à laquelle on va essayer de répondre. Voilà, comme j'ai peur d'être un peu long, je vais passer sur ces diapos-là qu'on pourra voir à la fin si on a du temps ou s'il y a des questions en rapport avec une sorte de quantification du phénomène au niveau de l'opinion publique. En tout cas, on va donc, nous, essayer de s'intéresser au travers de au moins deux cas bien précis à des choses qui sont quelque part du grand quotidien du sectarisme et qui aujourd'hui existent au jour le jour, sont sur Internet, ont pignon sur rue, etc. Avec les questions dont je vous parlais qui seraient du coup au travers de ces affaires assez emblématiques qui sont récentes, qui ont été jugées, donc c'est pour ça qu'on peut en parler et qu'on peut voir comment la justice les traite. Comment est-ce qu'on va qualifier les protagonistes dans ces questions sectaires? Est-ce qu'on a affaire à des victimes ou est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont consentants? Est-ce qu'on a affaire à des victimes ou est-ce que elles sont devenues des bourreaux, donc on va les traiter comme des victimes ou on va les traiter comme les bourreaux, comme le gourou? Et du coup, notamment pour la justice, mais en termes aussi d'appréciation de leur implication dans la société, est-ce que ce sont des coupables, est-ce qu'ils sont responsables, de quoi, et voilà. Et du coup, à la fin, effectivement, si y a des personnes ou des actions nuisibles, est-ce qu'on va pouvoir éliminer une secte, entre guillemets, au sens organisation qui se livrerait à des dérives sectaires, ou simplement les dérives sectaires que quelqu'un pratiquerait à longueur de temps. Donc le premier exemple, ça part d'une idée simple, un petit peu à géométrie variable évidemment, c'est que le psychisme a une influence sur le déclenchement de certaines maladies. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne toutes les maladies ? Chacun a son avis là-dessus. Oui ou non ? Ensuite, le psychisme a-t-il une influence sur les guérisons ? Oui ou non ? Est-ce que ça concerne toutes les guérisons ? Est-ce qu'on pourrait rajouter, est-ce que ça suffirait à obtenir une guérison, une auto-guérison, comme certains diraient ? Et est-ce que ce psychisme, donc, va être une solution exclusive à certaines maladies ? Est-ce qu'il pourrait l'être ? Et est-ce qu'il pourrait être une solution exclusive à toutes les maladies ? Eh bien oui, il y en a une qui existe, qui s'appelle la biologie totale des êtres vivants.
Il y a un truc qui me vient dans ce que tu as dit, ça va peut-être le déclenchement de maladies.
Ouais.
Le déclenchement de symptômes. C'est quand tu dis de maladies, c'est un autre domaine. Hein. Le déclenchement de symptômes. C'est pas du tout pareil.
Ah, je me demande si pour les gens dont je me fais l'écho là, c'est pas un peu la même chose, si tu veux.
Ben, ça n'est pas du tout la même chose.
Non, mais on est d'accord. Je sais que je parle devant des médecins et je vais apprécier vos remarques.
Ça induit, si tu veux, des choses.
Oui, oui.
Les gens, pour eux, c'est
de la même chose. On va dire que la question est intéressante.
Bon, on va revenir après. On va revenir après. Je la fais un peu volontairement parce que je me fais l'écho de la biologie totale. Hein.
D'accord.
Voilà. Qui est né à Villeneuve-les-Maguelones, hein, entre parenthèses. Donc, pour cette pseudo-théorie,
bonjour.
La biologie totale, et je cite donc le chantre de cette affaire-là, hein, qui depuis a été condamné, « La maladie est la meilleure solution de survie face à un événement vécu biologiquement. » Voilà, c'est entre guillemets, c'est une citation. Un petit peu, voilà, hein, ce dont je me fais l'écho là. Et donc, à partir de là, on peut envisager que toutes les affections, jusqu'à des problèmes de vue d'ailleurs, hein, c'est-à-dire c'est pas seulement des maladies, ça peut être, je sais pas comment tu vas appeler ça, mettons la presbytie ou la myopie.
Voilà.
Et pour ça, on a quelque chose qui est très efficace, qui s'appelle le décodage biologique. Donc, vous pouvez tous en faire. Là, demain matin, il y en a 7 dans le département de l'Hérault, hein, des spécialistes en décodage biologique. Et forcément, ces techniques-là, elles ont des résultats supérieurs à la médecine classique, parce que d'abord, elles ont des pourcentages de guérison plus élevés, si on les écoute, n'est-ce pas ? Et il y a rarement d'effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires. Donc si vous voulez une preuve, vous avez pu avoir cette preuve en écoutant une conférence à la Sorbonne, que je vais vous mettre en vidéo. Mais là, il faut que je jongle un peu avec
y a du son.
Mon petit problème de...
Son,
normalement, je vais voir. Ouais.
Attends, s'il y a du son...
Attends, non, tout est branché.
C'est sûr.
Sauf le petit.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc là, c'est un oubli, en effet. Ouais.
C'est méfié, là, toi, par contre, là.
Ah là là. C'est pas grave. Quelque part. Non, c'est bon. Merci. Ouais, c'est bon. Désolé. Voilà.
Le voici en pleine conférence en 2007.
parler d'échec.
Il y a des gens qui meurent aussi parce que je n'ai pas envie, parce que je suis jamais besoin, parce que nous ne sommes pas vraiment motivés, parce que le conflit est trop fort encore dans la famille, là, il est plus fort que ce que mentionnent les autres.
Pour les autorités, c'est un discours typique d'une dérive sectaire.
Il y a des dérives sectaires à partir du moment où vous constituez un réseau autour de votre personne, qui devient une espèce de gourou, donc, qui enseigne que la médecine est mauvaise, qu'eux détiennent une vérité. Cette vérité, elle n'est pas contestable, elle n'est pas critiquable, elle coûte cher, donc exigence financière, et elle est constitutive soit d'exercice illégal de la médecine, soit de non-assistance à cette personne en danger.
Les enquêtes aboutissent rarement. L'auteur des cassettes de déprogrammation biologique n'est pas mis.
Décodage ou déprogrammation ?
Alors oui, de toute façon...
Toute maladie démarre en un instant suite à un biochoc. Que l'on appelle un conflit déclenchant.
Oui, oui, mais je suis obligé de jongler avec un logiciel qui n'a pas accepté que j'intègre les vidéos dans les diapos. Voilà, donc il y a eu effectivement un gros scandale qui a été notamment dénoncé par Science et Avenir, un journaliste qui s'est beaucoup investi sur ces questions-là. C'était aux alentours de 2005-2006.
Plus fort. Hein.
Parce que ce personnage a réussi effectivement à intégrer des locaux, bon, certes annexes, mais des locaux appartenant à la Sorbonne pour claironner qu'il faisait une conférence à la Sorbonne où il y avait beaucoup de monde. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, y a-t-il des victimes ? Je crois que j'ai quelque part. Il faut que je change. Voilà. Un ordre qui n'est pas le bon.
Aller en Italie, donc sur un circuit de Formule 1, circuit de Monza. Puisqu'Anthony était fan de tous ses véhicules, il a l'air parfaitement heureux.
Tout commence un matin. Diane s'aperçoit que son fils a du mal à marcher.
J'avais remarqué qu'Anthony boitait. Et de plus en plus, mais Anthony ne disait rien. Et à un moment donné, effectivement, je lui dis, écoute Anthony, il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu bois, puis je suis sûre que tu as mal. Il me disait, oui, j'ai mal sur mon pied. Le radiologue m'a dit, écoutez, venez voir, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pour moi, c'est une tumeur.
Elle découvre qu'il a en réalité un cancer des os. Il commence un traitement à base de chimiothérapie. Sa santé s'améliore. C'est alors que son père, adepte de la biologie totale, arrête le traitement.
Les métastases hein, qu'il avait déjà, bon, ça n'existe pas, le mot métastase, hein, ce ne sont que des conflits. Le mot tumeur n'existe pas non plus, hein, ce sont des conflits. Et toutes les métastases qu'Anthony pouvait avoir sur son corps hein, correspondaient à un conflit bien précis. Et le jour où il aurait réglé tous ces conflits, de toute façon, il serait guéri. Et donc, son plus gros conflit, c'était avec moi. Donc, tant qu'il n'aurait pas réglé le conflit, ce conflit avec moi, de toute façon, il ne guérirait pas.
Embrigadé par son père, Anthony se serait laissé convaincre par les théories pseudo-médicales de la biologie totale.
Alors ça, c'est une lettre que Anthony m'a écrite. Toi, tu es en désaccord, mais je t'explique. Le pied, c'est le fait d'avancer. Ma tumeur est là pour m'empêcher d'avancer. C'est le côté droit, c'est le féminin, c'est-à-dire la mère. Donc, pied droit égale ma mère qui refuse de me laisser avancer. Et en PS, ça m'a fait du bien d'avoir écrit ceci, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime énormément. Mais fais des efforts et crois en moi.
Anthony est mort après avoir écrit cette lettre. Serait-il une victime de la biologie totale ? En tout cas, il avait cessé tout traitement. Quel est donc ce mouvement qui prétend tout guérir ? L'enquête commence à la Sorbonne à Paris. C'est dans cette université prestigieuse que le chef de file de la biologie totale donne une conférence le 30 juin dernier. Ces théories, vous allez l'entendre, vont à l'encontre de la médecine classique. Un exemple, pour lui, le tabac ne tue pas.
Attention, je viens, attaquez, bonjour, c'est le jour de l'incursion du pouvoir, on est pas clair, il hein, faut s'arrêter, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, chaque fois, le tarature, hein. À la fin, le monsieur finit par faire son cancer du pouvoir. Le cancer du fumeur, il n'est pas donné par le tabac, il est donné par le conflit terrible qu'ils ont eu dans la tête, dans le message. Parce qu'il a tellement peur d'avoir le cancer du poumon, que pour solutionner ce conflit, et le cerveau lui donne la solution, il a un cancer du poumon.
Olivier Hertel,
le voici en pleine conférence en 2007.
Bon,
médecin de forme.
Désolé. Ouais, non, il y a différents extraits. Ça, c'est donc un enfant qui, lui... Alors, parce qu'il y a pas mal d'endroits où je pourrais arrêter et prendre la réflexion ou susciter la réflexion à propos de responsable, à propos de qui fait quoi. Dans le cas d'un ado, il est victime, je crois qu'il n'y a pas de doute, il est surtout victime des croyances de son père. Après, vous avez des gens qui font le choix de ça pour eux-mêmes. Hein. C'est le cas de quelqu'un qui est mort aussi, là. Normalement, tout était bien rangé. Et tout est parti en vrille. Voilà.
Port de la Miviludes, la mission contre les dérives sectaires. Une enquête pleine d'enseignements. Principale conclusion, bien souvent, les sectes n'ont plus, comme autrefois, le visage d'organisations totalitaires ou pseudo-religieux. Elles prospèrent sur le marché de l'épanouissement personnel et de psychothérapie douteuse. Voici l'une de ces méthodes qui peut avoir des conséquences désastreuses. Elle s'appelle la déprogrammation biologique. Enquête Sophie Rodier, Éric Delagneau.
Les conflits de diagnostic.
Ces cassettes, Marie Staxic ne les a pas gardées en souvenir, mais pour porter plainte. À ses yeux, elles sont responsables de la mort de son mari.
Il écoutait ça dans son véhicule. C'était sa façon de se soigner.
80 heures d'enregistrement que Claude Staxic écoutait en boucle. Mort d'un cancer, il était adepte de longue date d'une soi-disant médecine qui l'a convaincu de ne pas prendre de traitement anticancéreux. Cela s'appelle la biologie totale.
Mais la biologie totale, le cancer, ça n'existe pas. C'est au niveau de l'esprit, pour certains. Et puis si ça existe, vous pouvez guérir de votre cancer sans problème.
Comment ?
En déprogrammant.
Déprogrammer la maladie. Une théorie qui prétend que toutes les pathologies, cancer et sida inclus, peuvent être guéries instantanément. Le principe, trouver l'origine psychologique du mal.
La biologie totale dit, il faut souffrir parce que c'est un signe que vous êtes en phase de guérison. Donc la souffrance était bénéfique pour lui. Si vous n'avez pas la certitude, vous ne guérissez pas. Mais c'est diabolique ce truc-là.
Mais il y croyait dur comme fer.
Oui, il y croyait à 1000%.
L'auteur des cassettes, le voici en pleine conférence en 2007. Mais...
Donc il y a effectivement, on a vu dans d'autres vidéos que déjà il se prémunit contre les échecs qu'il pourrait avoir en disant, en culpabilisant les gens, en disant c'est que vous n'y avez pas cru suffisamment, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire.
Parle plus fort, Alain.
Yes.
Pas pour moi, hein.
Alors, la question du consentement de ces gens-là, donc il faut que je parle à Françoise pour que parler à Stéphane.
Si Françoise se remet au fond, ça veut dire que Michel t'entendra.
Oui.
Question de...
Oui.
En matière de santé, il y a une loi assez récente, qu'on appelle la loi Kouchner, qui, depuis 2002, fait obligation donc aux praticiens, aux médecins d'informer le patient, et pour qui ça devient une obligation forte, et du coup, le malade est en position d'accepter ou de refuser les soins. Bon, c'est la liberté. Et évidemment, le malade, il est à la fois dans son consentement, il est face au désarroi de la maladie et de l'annonce par la médecine que peut-être il en a pour 3 mois, parce que la médecine essaye de dire la vérité et que la médecine va lui donner éventuellement une probabilité de survie. Alors que dans l'autre cas de figure, il va se trouver avec des gens de la biologie totale ou autre qui vont lui assurer que la médecine, ok, elle a ses limites, mais nous on va plus loin que la médecine, donc on peut faire quelque chose pour vous. Alors, est-ce qu'on va parler de consentement éclairé ou pas? Est-ce qu'il y a une emprise ou pas? Qui peut juger de ça? Sinon la justice, évidemment. La responsabilité du refus des soins, elle est très très courante, hein, parce qu'on connaît la question des témoins de Jéhovah vis-à-vis de la transfusion sanguine, vis-à-vis de certains soins, où là, il y a effectivement une pression de l'entourage qui vient conforter le patient dans sa religion en lui disant qu'il ne faut pas qu'il accède à certains soins qui sont contraires à sa religion.
Pourquoi c'est la médecine dans ce cas-là ?
Alors la médecine n'a pas le droit d'obliger aux soins dès lors que c'est un adulte qui, en connaissance de cause, voilà, il peut signer une décharge, etc. Par contre, la médecine va intervenir en cas d'urgence, quand il n'y a pas moyen d'avoir l'avis du patient, et quand il s'agit d'une situation de survie immédiate. Mais s'il n'y a pas survie immédiate, la médecine laisse faire.
Survie immédiate, la loi existe.
Ayant vécu cette situation en à l'hôpital, quand il est assisté des parents, témoins de Jéhovah, refusant aussi une transfusion d'enfants, et là on transfusait les enfants.
Les parents ou les médecins,
les enfants. Les parents refusaient. Quand c'est les parents eux-mêmes adultes responsables pour signifier les prix, à la limite, c'est dans ça. En gros, ça se faisait comme ça, il y a un certain candidat.
Était autorisé à passer au-dessus de l'autorisation parentale.
Pardon.
Était autorisé à passer au-dessus de la.
Totalement.
Pour des enfants, non, on n'a pas compris.
C'est beaucoup plus condamnable, c'est du consensus.
Ça remonte à quand
mon expérience.
Non, non, juste pour dire que je ne suis pas sûr.
Tu vois, par rapport à la.
Je ne suis pas sûr que depuis 2002, ça serait possible.
Ah non, moi, c'est avant.
Mais oui. Les parents décident pour l'enfant. Ils ont une. Légalement. Donc, c'est pas
pour l'enfant.
Oui, mais non,
pour un adulte,
on est d'accord.
C'est
pas si clair que ça, et je comprends bien qu'il y ait des médecins qui aient le courage de dire peu importe les risques pour moi, je m'occupe du patient. Ça, j'en doute pas. Mais rigoureusement, par rapport à cette loi Kouchner, hein, attention, c'est pas simple. Voilà. Et l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est une fois que ce monsieur est pas une fois qu'il est décédé, mais juste avant qu'il décède, parce qu'il a dit à sa femme, juste avant de mourir, qu'en effet, il avait été trompé. Et donc, est-ce que ce monsieur, conscient qu'il a été trompé au dernier moment, dans un stade terminal ou autre, s'il avait décidé de porter plainte, comment sa plainte aurait-elle été reçue, quoi? Est-ce qu'elle aurait été reçue par la justice ou pas, et comment elle aurait été traitée? Tout ça, c'est encore des questions qu'on peut se poser, c'est des points d'interrogation. Non, non, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse générale, si tu veux. C'est ça, parce qu'on va voir même qu'au niveau de la justice, un juge va juger d'une façon et un juge d'une autre. Je ne sais pas s'il y a déjà beaucoup de jurisprudence là-dessus, et notamment par rapport à la loi Aboupicard qui a établi le nouveau délit depuis 2001 de mise en état de sujétion psychologique des personnes. la jurisprudence, elle est relativement nouvelle, faible, et donc elle demande à être un peu confirmée et acquise, quoi. Alors, je me remets en diaporama. Difficile de faire 36 choses à la fois. Bon, la responsabilité du chantre de la biologie totale, hein, gourou ou autre personne, elle est devant la justice. Donc, le créateur de la biologie totale est passé au tribunal correctionnel. Le problème, c'est que il y a 2015, il a à Montpellier, hein, c'est à Montpellier, hein, il a eu l'habileté depuis qu'on dénonce ces atteintes aux personnes. Il y a d'abord les mises en garde. Non, je n'empêche pas les gens de se soigner, c'est complémentaire. Ça, c'est très nouveau et c'est purement une défense et purement un élément de langage public, puisqu'on sait très bien qu'en face à face avec les patients, il y a moyen de faire passer autre chose, même sans le dire. Donc, il se cantonnait aux formations, plus de consultations. Hein, ça, c'est le schéma général. C'est moins risqué et ça rapporte plus de faire des formations. Il n'a jamais été... Enfin, on n'a pas pu prouver qu'il ait été en contact direct en matière de consultation avec le patient qui est décédé, donc c'est pas lui qui est accusé. On reste sur la responsabilité du patient qui a refusé les soins. Par contre, avec le scandale de la Sorbonne et toute la publicité qu'il a fait et les formations qu'il fait, il a quand même été accusé de publicité mensongère, publicité trompeuse, et la condamnation qui est arrivée en finale, c'est pratique commerciale trompeuse, pour laquelle il a quand même pris 2 ans de prison ferme, ce qui est quand même pas rien, avec des amendes. Alors tout ça, est-ce que ça a mis fin à l'histoire de la biologie totale? Bon, en fait, les formations font qu'il y a pas mal de disciples, que tant qu'il y a des clients et tant qu'il y a une demande dans le public, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y aura toujours des gens pour offrir ce genre de choses. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de grands disciples de cette affaire et qui ont toujours opinion sur rue et qui sont toujours en vue sur Internet. Et qu'on peut même, sans aller les dénombrer, mais il y a un site qui est très informatif sur ce sujet-là, qui département par département, quand on tape décodeur biologique, on va en trouver 9 dans l'Hérault, on va en trouver 7 dans l'Aude, on va en trouver... Voilà. Ce qui fait qu'en moyenne... Si on compte le nombre de départements en France, et on va se retrouver avec près de 700 personnes qui font ça.
Mais ça, est-ce que ça paye bien ?
Et il faut croire. Il faut croire. À l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était déjà 60 euros la consultation. C'est le prix d'une consultation de spécialiste. Pour la consultation, mais les formations...
C'est gagne-petit, ça.
Les formations, c'est quelques centaines d'euros le week-end. Il n'y a pas qu'en France que la question s'est posée, puisque tout le monde francophone a été concerné par cette affaire-là. Et c'est même les Canadiens qui ont levé le lièvre les premiers et qui ont fait un travail journalistique le plus conséquent, qui ensuite a été repris d'ailleurs par les médias français.
Beaucoup d'activités au Québec, il y a beaucoup de fausses choses, il y a beaucoup de réactions, etc.
Alors, on voit bien qu'on a affaire à des générations successives qui perpétuent la même tromperie, bien qu'il y ait tout un tas de gens qui aient été condamnés. Saba, il a à la limite rien inventé, puisqu'il s'est inspiré de Hammer. Hammer, depuis 1979, le moment où il a attrapé un cancer des testicules, Hammer, il a inventé cette idée que la maladie était provoquée par un choc psychologique, parce qu'il a perdu son fils dans un accident de chasse. Et que derrière, il a attrapé un cancer des testicules. Bon, donc il en a déduit que là-dessus, étant médecin, il a été radié en Autriche d'abord. Ensuite, il a été condamné dans plusieurs pays, en Autriche, en Allemagne surtout, pour exercice illégal de la médecine, puisqu'il a continué en étant radié. Et puis, ensuite, il a exercé en France, où là aussi, il a continué son affaire et où il s'est fait à nouveau condamner. Donc, 19 mois plus 18 mois, etc. Et ensuite,
il a créé la clinique amère, en gros machin, tout ça. Il n'est pas allé avec le taux de cuillère. Hein,
voilà. Il s'est enfui en Espagne. Il a été rattrapé. Après, il s'est mis à l'abri en dehors de l'Europe, en Norvège, où il a quand même été empêché d'exercer. Mais voilà, il est mort la semaine dernière, ou il y a 15 jours. En tout cas, il a donc fortement inspiré Sabat. Sabat, qui est un médecin à l'origine, mais qui, lui, a eu la prudence de se désinscrire du tableau des médecins, de façon à ne pas être embarrassé par l'ordre des médecins. Parce que là, l'ordre des médecins peut faire quelque chose vis-à-vis des médecins qui sont inscrits, mais vis-à-vis des autres, l'ordre des médecins n'a aucun moyen de sanctionner quoi que ce soit.
Il suffit d'arrêter de payer la cotisation à l'ordre.
Voilà. Donc, lui aussi a fait ses deux... Enfin, je ne sais pas s'il les a fait, parce qu'entre-temps, il a eu un AVC et qu'il a eu des problèmes de santé lui-même.
Il est décédé, là-bas,
non ? Sabat, je ne crois pas. C'est Hammer qui est décédé, oui.
Je crois que c'était Sabat.
Non, non. C'est Hammer qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ensuite, il y a un autre, monsieur Philippe Lévy, je ne sais pas où on en a entendu parler quelque part, qui lui aussi a fait de la prison, mais lui il est mort aussi. Et on a maintenant d'autres disciples, dont un certain Christian Flèche. Naturellement, les 700 autres dont j'ai parlé, qui prennent bien la précaution d'avertir publiquement qu'ils sont en position de complémentarité, mais en off, évidemment. On ne sait pas trop ce qu'ils peuvent dire et comment ils vont convaincre les patients. Là-dessus, l'État continue à s'intéresser, au travers de certaines institutions, à ces dérives, et notamment au niveau des commissions d'enquête. Il y a l'Assemblée nationale qui en a fait une en 2005 et le Sénat en 2013. Et il se trouve que en 2013, M. Christian Flèche, qui s'était inspiré lui-même de Hammer, a été convoqué par la commission d'enquête pour s'expliquer. Et tout ça, c'est sur Internet. Non, alors je vais le trouver là. Alors, ça fait 45 minutes, hein, vous direz le
temps. Toute maladie démarre en un instant suite à un biochoc, que l'on appelle un conflit déclenchant, car il déclenche, révèle une histoire conflictuelle passée ou conflit programmant. Ça, c'est une certitude, c'est ce que vous écrivez.
C'est présenté avec des accents d'une certitude, mais je n'impose pas.
Non, non, mais monsieur, il ne faut pas tourner autour de... Il faut être clair, ça, c'est une certitude. Vous indiquez aux gens que pour ceux, c'est sur vos documents, que toute maladie démarre suite à un biochoc, à un conflit déclenchant, réveillant une histoire conflictuelle passée ou conflit programmant. Vous voyez bien quel est l'objet de la question, c'est qu'il y en a d'autres qui disent ça. Hein. Il y en a d'autres qui disent ça, je pense en particulier à la méthode amère, qui part à l'origine de cela. C'est-à-dire que toute maladie découle de cette espèce de pseudo-choc ou de ce conflit.
Oui.
Non, mais ça, c'est une affirmation, c'est une certitude.
Ça a des accents d'incertitude, mais excusez-moi d'insister, mais que je n'impose à personne.
Mais je ne vous parle pas d'imposer. C'est votre. C'est ce que vous pensez, et c'est ce que, quand même, vous pratiquez. Hein, puisque, ne serait-ce que les questions, l'histoire que vous venez de nous relater par rapport au genou, est quand même la déclinaison de cela.
Oui, mais... Comment dire,
or nous connaissons les dérives découlant de ce type de raisonnement. Bon, alors je sais bien, hein, parce que là aussi soyons tout à fait clairs, que vous êtes particulièrement prudent, et quand on va sur le site du décodage biologique, l'importante mise au point à propos du code décodage biologique, vous faites bien attention de dire que vous n'avez rien à voir, par exemple, avec le docteur Hammer, avec le docteur Sabat, etc. Enfin, l'origine, le raisonnement part en tout cas des mêmes constatations.
Il y a des points communs dans la dans le contenu, mais pas dans le fond ni la forme pour moi, ni dans l'esprit.
Mais est-ce que vous êtes conscient quand même des dangers? Parce que nous, il ne s'agit pas d'intervenir sur ce que les gens pensent, sur ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les méthodes, les comportements qui entraînent des conséquences néfastes au niveau de la santé pour nos concitoyens. Bon. Or, cette constatation que vous faites et cette déclinaison peut amener des malades, puisque vous nous dites que quand même vous recevez des patients, des malades, à avoir des comportements dangereux. D'ailleurs, vous faites très attention dans vos dernières mises au point à dire que il n'y a pas de promesse de guérison, que ça ne remplace pas une consultation avec un médecin ou un autre professionnel. Donc on voit là un comportement ultra prudentiel maintenant. Et si vous avez fait cette mise au point, c'est pas pour rien.
Excusez-moi d'insister.
Voilà.
On verra les références.
Alors, il suffirait de taper Sénat,
Flash.
Audition, Christian Flash.
Apparemment, ça va être toujours vivant depuis son AVC de 2008. Apparemment.
Hein. Oui.
Non.
Pardon ?
Il a parlé de son
Voilà, Christian Flech n'a pas été plus inquiété que ça en 2013, parce que il arrive que derrière une commission d'enquête, il y ait suffisamment d'éléments pour que la justice engage une procédure. Or là, visiblement, il n'y a pas eu de procédure engagée. Hein. Il est toujours là, il est toujours sur le site, et ça c'est ce qu'on lit sur son Facebook à propos d'une recommandation ou d'une espèce de consultation collective sur le décodage biologique de la hernie inguinale, Marie-Hélène. Voilà, donc il s'agit, comme il le précise, c'est un infirmier hein, à la base lui, hein. Donc j'ai précisé qu'il s'agit d'une hernie indirecte car le passage de l'intestin grêle se fait par le chemin qu'emprunte le canal spermatique, et donc, comme tout le reste, cela a un sens bien précis. Donc, de quoi s'agit-il? Puisque vous avez un affaiblissement du grand optique, c'est... du grand oblique, merci. C'est un affaiblissement musculaire, et donc, il y a un ressenti d'impuissance, entre parenthèses, le cerveau n'entretient pas des choses qui ne servent à rien, comme nous n'entretenons tiendrions pas un véhicule si on ne s'en sert pas. Donc, servez-vous quand même de ce que vous avez. Hein. Alors, ce passage...
C'est le médecin malgré lui, ce passage.
Ce passage vers l'extérieur de l'intestin grêle, puisque son rôle de l'intestin grêle, c'est de brasser et de trier pour choisir ce dont notre corps a besoin pour se nourrir, entre parenthèses, un test. Hein? Donc ça, c'est le grand jonglage avec les mots qu'on doit certainement à Lacan, pour certains, et qui plaît en France. Hein. La zone concernée est celle de l'accouplement, la zone pubienne. Puisque passage par l'intestin, l'interstice, voilà, il y a répétition, où passe le canal spermatique. Nous avons donc tous les éléments, il n'y en a pas fallu long, hein, pour avoir tous les éléments pour questionner le patient, et la phrase serait donc, puisque quelque part, il y a eu un choc psycho-affectif, biologique, comme on veut, donc pour en sortir, il faut le choc de la compréhension. Alors, au niveau d'une seule phrase que le praticien va pouvoir élaborer à la suite de ça, de ce que le patient lui dit, il va prétendre provoquer un choc guérisseur. À partir du moment où le patient va comprendre, il sera guéri potentiellement, même si ça prend que quelques jours, immédiatement ou pas. Alors, la phrase en question serait donc, pouvez-vous me parler d'une situation lors de laquelle vous vous êtes senti impuissant à faire le tri dans vos relations intimes de couple par rapport à ce qui vous nourrit dans cette relation? Et là, bon, le choc. Le patient est choqué, il est guéri. Ça, c'est quand même daté du 11 août de cette année. Hein. Mais oui.
J'ai des gens répondre à cette
c'est sur Facebook. Hein. Alors, l'explication, cet homme rencontrait des femmes avec qui il vivait des moments agréables et torrides sexuellement, mais il ne pouvait s'en contenter, attendant beaucoup plus d'une relation intime comme partage. Ce qui lui a provoqué, je me demande. Cela s'étant reproduit jusqu'à ce qu'il atteigne la cinquantaine, son inconscient lui a donc manifesté son ressenti profond avec son langage pour lui permettre de comprendre, point de suspension, et de guérir le petit signe sourire du guérisseur.
Moi j'ai deux canaux spermatiques que j'ai eu à droite et à gauche.
Ouais, mais toi tu joues ouais, double jeu toi. Hein. Tu joues double jeu.
Wow. Incroyable.
Quelle puissance.
Ça joue en double. Ça joue en double.
Voilà.
Donc ça, c'est... imagine le patient en plein exercice avec ses mimiques, ses bandages dernières. Ça ne doit pas être facile.
Donc, on a toute une filière là qui a déjà une bonne ancienneté. Hein. Depuis les années 80, on va dire, qui n'a fait que prospérer, finalement, dont l'État et la justice, c'est peut-être inimaginable, tout l'argent qui a été dépensé par l'État dans différentes institutions, hein, parce que le gouvernement avec Camille Vilude, les assemblées parlementaires, une police spécialisée qui s'appelle la Caïmades, les associations, enfin, c'est phénoménal. Et puis eux, ils engrangent l'argent. Que nous, on en a dépensé beaucoup, mais eux, on en a gagné encore plus.
Juste une question, ils se payent combien à chaque consultation, si je peux dire ça?
Bon, moi, j'avais, je ne sais pas, parce que, en fait, ça, c'est plus discret, étant donné que ceux qui s'affichent comme ça, eux, ne consultent pas, nous vont donner des indications libres aux gens de les suivre, mais après, comme ils forment des gens, vous avez des gens, des anonymes, des gens qui galèrent un peu, qui vont faire ce métier et qui, eux, prennent encore le gros risque de l'exercice illégal de la médecine. Et donc, eux, ils n'ont pas de plaque sur la porte, c'est que le bouche à oreille, etc. Il y a un disciple de Sabah que j'ai bien connu, qui est médecin généraliste à Lattes. Bon, il s'est mis un peu au vert à un moment parce qu'il a été un peu tensé par l'ordre des médecins. Et puis, voilà, il y a eu une amnistie parce que c'était à la suite de l'élection présidentielle de Chirac. Il s'est fait oublier un moment, il est revenu là et bouche à oreille, et ça continue quoi. Médecin généraliste. Hein.
Ouais, on a des brebis galeuses.
Mais oui, comme partout. Dans les années 2000, il y a une estimation qui est parue dans le Panorama du médecin, un quotidien
bien connu.
Voilà, qui disait qu'il y a 3000, il y avait. Il y a 10 ans, 3000 médecins qui étaient plus ou moins dans la dérive. Bon, c'est comme partout, hein. Il y a des gens... Oui, 3000 en France.
Oh, il y a 150 000, 170 000. Ah, avec les spécialistes, on est à la doigt de
250 000. Bon, j'essaye d'avancer un peu parce que je vais passer à un autre cas d'école qui a été jugé assez récemment. Là. Qui est dans le registre pseudo-religieux, on va dire. C'est une dame qui a créé ce qu'elle a appelé un parc d'accueil à Lisieux, ville donc de pèlerinage bien connue, mais en décalage avec la religion catho, il n'y a eu pas trop d'incidence du catholicisme là-dedans. Donc, une prof d'anglais qui se fait appeler, qui se prétend auprès de ses adeptes épouse de Dieu, déesse de la beauté, en proximité avec Dieu. Alors, je n'ai pris que des citations de la presse, hein. Tout ça c'est public, c'est essentiellement dans Ouest France, parce que ça se passe en Normandie.
Je dois mettre la photo.
Je pense qu'il y a la photo de la maison, mais on n'a pas la photo tellement de la dame. Pour la reine de beauté, oui. La reine du royaume de Dieu sur terre. Voilà. Et son service, on va dire, c'est d'extirper le démon qui est à l'intérieur de ses adeptes. Bon, les adeptes en question, c'est une petite communauté qui, sur une petite dizaine d'années, a concerné environ une vingtaine de personnes, et quand on y a mis un terme, il y avait 10 ou 11 adeptes, donc petite communauté, mais cas emblématique quand même, avec parmi les adeptes un peu de tout, hein, femme de ménage, garagiste, institutrice, un enseignant, et là-dedans, des personnes vulnérables, alors en raison de leur état de santé physique et mental, donc des états de faiblesse soit passager, parce que dans la vie, tout le monde peut avoir un état de faiblesse passager, ou permanent, quand il y avait, là, je crois, quelqu'un qui était un petit peu handicapé au niveau mental. Alors, comme dans tous les cas de figure sectaire, il y a d'abord une phase de séduction, évidemment, il faut quand même attirer les gens, et il y a l'espèce de phase qu'on appelle le love bombing. Hein, les gens qui sont un peu en manque, qui ont des soucis, dès lors qu'ils se sentent écoutés, compris, aimés, pour eux, c'est génial. Bon, et puis très vite, le glissement, parce que comme il s'agit de les mettre sous dépendance, il y a une phase violente qui est arrivée dans ce cas-là, où les gens, hein, je n'ai pris que des termes qui ont été rapportés par les adeptes une fois qu'ils ont été sortis. Une phase où on les insulte, on les dévalorise, on les traite de moins que rien, donc on les casse un peu, comme on dirait maintenant. Et de façon à ce que ça soit d'autant plus facile de les consoler après. Donc il y a une phase, je vous console, je vous prends dans mes bras. C'est la calinothérapie, on va dire, qu'elle appelait la mêlée céleste. Parce que comme elle était toujours en relation avec plus ou moins le divin, enfin qu'elle prétendait à un côté mystique, elle mettait toujours quelque chose de céleste dans ses discours. Donc oui, il est précisé dans la presse qu'il y avait des incantations, de l'exorcisme et le rite vaudou, mais peut-être le rite vaudou à sa façon, parce que la religion vaudou, c'est quand même plus complexe que ce qu'on veut bien en savoir chez nous, là, dans la civilisation occidentale. Alors, ces câlins, évidemment, ils vont dériver aussi sur des débats sexuels clairs et nets, qu'elle appelait des navigations. Bon, alors là, ça fait référence quand même à tout un champ du phénomène sectaire qu'on connaît bien. Tout ce qui est en relation avec l'au-delà, c'est le channeling. Donc il y a des tas de gens qui prétendent recevoir des messages de l'au-delà et du coup communiquer à tout un tas de personnes. Voilà, moi j'ai reçu un message de l'au-delà, toi tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ou il y a telle chose qui va se passer, je suis en contact avec l'au-delà. Le channeling est... l'exorcisme, tout ça, voilà. C'est très... Finalement, c'est toujours un melting pot de choses qu'on retrouve dans énormément d'emprises sectaires. Ce qui fait que ces gens, ils vivaient, en réalité, ils ont un peu tout quitté, et ils vivaient dans deux maisons. Une maison qui appartenait à la Nouvelle, comme on peut l'appeler, et à d'autres adeptes qui avaient mis à disposition leur maison. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a passé 6 ans, là, quelqu'un qui raconte qu'ils ont vécu comme des automates, ils allaient travailler la journée, en particulier là il s'agit d'un couple dont la femme était éducatrice, et lui travaillant dans le bâtiment, et chacun retrouvait le groupe et cette ambiance totalitaire le soir. Alors, Les mêlées célestes, les navigations qui finissaient quelque part en partouze, si on veut appeler un chat un chat, elle se faisait, ça se fait aussi souvent dans les milieux sectaires, avec échangisme, et c'est le gourou qui décide avec qui tu vas coucher, quoi. Donc c'est le gourou qui défait et qui fait les couples, temporairement ou pas. Donc c'est encore un moyen d'emprise sur les gens. Et tout ça, c'est justifié, comme elle dit, parce qu'on était dans une autre dimension. Donc déjà, vous ne pouvez pas comprendre si on est dans une autre dimension. Et puis, pour les adeptes, s'ils sont dans une autre dimension, bah, peut-être que ce qu'on leur fait faire, c'est normal. Voilà. C'est au-delà du normal. Hein. On est dans le paranormal. Alors, dans ce qui est un petit peu sordide, c'est que, en particulier, demander à une mère de coucher avec ses fils. Quoi, hein, ça. Et, enfin, je l'ai entendu par ailleurs, il y avait... dans ce cas-là, l'un qui était handicapé mental. Voilà, donc c'est quand même un petit peu facteur aggravant. Oui. Donc la question de la responsabilité, on la retrouve là. Voilà. Bon, l'amour, elle, ok, elle fait des choses, mais en même temps, elle fait faire. Les gens qui pratiquent, quelle est leur part de responsabilité? Quel est le rôle de l'emprise? Est-ce que effectivement c'est passible de la cour d'assises, parce qu'on a des viols dès lors que quelqu'un le dit, hein, puisqu'il y avait des amoureux dans l'équipe et il fallait subir les assauts sexuels de gens qu'on n'avait pas choisis. Bon, et pour le garçon, mettons, qui accepte de faire ses ébats sexuels, est-ce qu'il y a viol ou pas de sa part? Est-ce qu'un adepte, même sous emprise, est un violeur dès lors qu'il va accepter de faire ce qu'on lui dit, de coucher avec telle personne, sous la contrainte de la gourelle, sachant que cette personne est forcément en désaccord, puisqu'il s'agissait déjà de séparer un couple d'amoureux, à qui elle avait interdit de se marier, interdit d'avoir des enfants, tant qu'elle soit dans la communauté, etc. Au niveau... Voilà, mais... Ils sont tordus, ils sont prisonniers parce que ils ont été attirés dans ce mode de vie. Ils ont tout lâché, ce qu'ils avaient de relation avec un environnement habituel, familial, amical, professionnel, hein, peut-être pas parce qu'ils continuent à travailler, mais donné de l'argent, vendu leurs biens. Donc ils étaient là, quelque part, prisonniers de ce cadre et de ce mode de vie. Alors, pourquoi ça a changé de page? Autre élément de réflexion sur la responsabilité. Assez vite, dans les groupes comme ça, il y a des adjoints. Il y a des gens qui sont proches du gourou, à qui la gourelle va demander de l'aide, des personnes de confiance, et les plus zélées. Donc, ces adjoints... Alors déjà, il y a un couple qui a prêté sa maison, dans laquelle se perpétuent des viols. Comment est-ce qu'on appelle ça en droit, quelque part? Je ne sais pas, hein, si on met sa maison à disposition... d'un système de prostitution ou autre. On est comment? Bon, voilà. Il y a quelque part derrière des qualifications. Non, mais il y a des mots qui m'échappent. ou au moins complicité. Sur le fait de mater les adeptes, il y a aussi quelqu'un qui a bien dit que c'était pas. Il a fallu subir les coups de Françoise Dercle, elle s'appelle, et de quelques autres adeptes. Donc les autres adeptes qui tapent comme Françoise, quelle est leur responsabilité à eux aussi? Est-ce que ces violences, ils en sont responsables? Et devant la justice, elle va passer la justice, donc il va bien falloir... Bon, il y a la question des enfants qui est encore pire, parce que les gens qui ont donné leur maison, ils ont deux enfants. Les enfants sont là quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Est-ce qu'ils sont mêlés à tout ça? Voilà, et... la responsabilité de la mère qui couche avec son fils. Bon, je ne sais plus s'il est mineur ou pas le fils, mais peut-être pas mineur. Hein, mais, est-ce que là, la mère viole le fils ou, voilà, c'est quand même assez compliqué en termes de consentement. Y a-t-il consentement et où? Y a-t-il emprise? Y a-t-il responsabilité? Et y a-t-il responsabilité pénale?
La qualification juridique est particulièrement difficile.
Ouais, on va peut-être dire que là, il y a publicité mensongère, je ne sais pas. Non, je fais du mauvais esprit. Pardon. Il faut respecter la justice et ses décisions. Voilà. Que dit l'accusé? Qu'a dit l'accusé à la presse? Qu'a dit l'accusé au tribunal à ce moment-là? Bon, évidemment, elle est sous le choc. On l'a traité de tout. C'est clair. Et elle dit, bah oui, mais on a vécu dans une autre réalité. La cinquième dimension, donc c'est pour ça que je faisais référence au channeling, à des états modifiés de conscience, hein, parce que quand on parle de transe, quand on parle de... Voilà, est-ce qu'elle prétend avoir joué sur des états de conscience d'elle-même et de ses adeptes ? Donc, comment peut-on vivre un tel truc, dit-elle, recevoir tant de gens sans qu'un seul instant on ne dise quoi que ce soit. Sauf qu'on l'a dit, mais on l'a dit au bout de quelques années, mais on l'a dit quand même. Hein, puisque y a une des personnes adeptes qui a quand même trouvé que c'était un petit peu fort de café et qui a, avec l'aide de personnes extérieures, a fini par porter plainte. Donc, toute cette affaire a été d'abord enquêtée de façon discrète par la police, avec une enquête préalable, comment on appelle ça, enquête préliminaire. Puis après, tout le système avec la nomination d'un juge d'instruction, etc., tout s'est mis en branle. Et puis, la police a débarqué un matin dans la maison, et a coffré tout le monde, mis tout le monde en garde à vue. Le but du jeu, c'était d'éviter, effectivement, comme toute garde à vue, la communication entre les gens. Et puis, c'était surtout de prendre en charge les adeptes, parce que là, il y a quelque chose de très nouveau qui a été fait. C'est de mettre en jeu un psychologue, une psychologue en particulier, spécialiste de la question de l'emprise sectaire, qui a écouté les adeptes, mais surtout qui, à partir de leur dire, a essayé de les convaincre, de leur montrer qu'ils avaient été victimes et que donc ils n'avaient pas de raison de défendre la gourelle, qu'ils n'avaient pas que leur bien-être et leur avenir n'étaient pas forcément là, etc. Ça, c'est quelque chose d'énorme, parce que sinon, il y a un tel niveau d'emprise que après, de toute façon, quoi qu'il arrive à la gourelle, ces gens-là, ils risquent de se retrouver ensemble, de reformer le groupe, et de perpétuer un petit peu ça, soit avec elle en sortant de prison, soit avec d'autres personnes. Donc là, il semblerait que c'est un petit peu un cas d'école aussi là-dessus, parce que à la fois la justice a quand même bien travaillé sur cet aspect de prise en charge des personnes et d'aide au rétablissement pour elles. Donc reste la question des sanctions qui ont été prise. La gourelle, bon, effectivement, elle, même si les adeptes l'ont cru, elle a été condamnée au maximum de ce que permet la loi à Boupicard sur l'emprise sectaire, à 5 ans de prison, avec différentes interdictions civiles. Interdiction d'exercer dans des associations, différentes interdictions, une grosse amende, je crois, de l'ordre de 500 000 euros. Le couple d'adjoints qui a laissé sa maison, qui était l'adjoint, qui a participé, etc. Et les autres adeptes, tout le monde a été considéré comme victime et tout le monde a été, comment on dit ?
Acquitté.
Voilà, j'aurais pu faire un test pour vous demander votre avis. Parce qu'effectivement, on peut avoir une perception diverse et variée dans ce genre d'affaires des responsabilités des gens. Bon, comme je suis déjà un peu long, je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre d'échange. Et on en revient au consentement, puisque le consentement en droit pur, il n'est pas défini. Par le code civil, il n'est pas défini positivement, donc on ne dit pas ce que c'est. Par contre, on précise ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire les vices de consentement. Alors il y a trois vices de consentement. Il y a l'erreur, hein, donc on a fait quelque chose par erreur, si on peut le prouver, c'est qu'on n'a pas été consentant pour le faire. Le dol, c'est la tromperie, c'est... voilà, on a été trompé. Alors, la mise de sous-emprise peut rentrer dans ce cadre-là, sans doute, si on arrive à la prouver. Et puis, la violence, évidemment, si on vous fait faire des choses par la violence, c'est que vous n'êtes pas consentant.
Alors, la photo, hein, de la gourelle.
Ah, bravo. Au niveau des agressions sexuelles, la question du consentement, elle se pose tout le temps, évidemment. Hein. Il y a d'ailleurs une autre affaire hein, que celle de Madame Dercle, avec qui a été encore jugée en appel dans la semaine. Là, on n'a même pas le délibéré, je crois. Où il y a un gourou qui s'appelle Loison, je ne sais plus quel est son prénom, à Nantes, qui a mis sous emprise des gens et a donc agressé et violé un certain nombre de gens, avec la participation de sa compagne à lui, comme complice. Et en première instance, sa compagne, elle a été acquittée aussi pour la raison qu'elle était sous l'emprise. Donc voilà, il semblerait que là, on parlait de jurisprudence tout à l'heure, est-ce que c'est une jurisprudence qui est en train de se mettre en place? Parce que, est-ce que c'est pas un effet aussi de la loi sur qu'on soutient beaucoup, puisque c'est quand même la présidente de l'UNATFI actuelle qui l'a rapporté hein, à l'époque, en 2001, c'est pour ça qu'on l'appelle la loi Aboupika. Cette loi qui permet de sanctionner le délit d'emprise sectaire, on va dire, elle va jouer du coup à l'envers pour dédouaner des gens qui ont sous cette emprise commis des choses dont on pourrait leur attribuer la responsabilité. Là, il y a un vrai questionnement. Et c'est allé jusqu'à ce que le président du tribunal qui a annoncé le verdict a ajouté que la justice s'était trompée par rapport aux adeptes en les mettant en garde à vue et en leur mettant des chefs d'inculpation du style complicité et qu'elle exprimait la justice des excuses sincères à ses adeptes qui ont été donc déclarés avoir agi sous emprise. Parmi les victimes de M. Loison, là, qui est en train d'être jugé, c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas trop en parler, il y a quelqu'un qui a laissé son enfant entre les mains du gourou. Donc, quelle est la responsabilité de ce parent qui va, en connaissance de cause, hein, sachant ce que fait le gourou, laisser son enfant? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour, l'enfant, ayant pris conscience de tout ça, porte plainte contre ses parents parce que, voilà, on l'a mis dans des circonstances où il a été abusé. Alors, sur les vices de consentement, il y a d'autres affaires, là encore, hein, dans le cadre du travail forcé ou dans ce qu'on appelle maintenant l'esclavage moderne. Il y a une communauté qui est un petit peu dans la ligne de mire depuis un certain temps, qui s'appelle les TM, donc en fait c'est une communauté religieuse qui travaille dans de la restauration pour des gens en difficulté, ça me reviendra, et donc là il y a une accusation de certains de manquement aux lois du travail et de quelque part d'emprise à la fois par le biais religieux hein, puisqu'on te dit voilà, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, donc toi, il n'y a pas de raison, puisque tu y crois et que c'est ton modèle, donc il faut que tu assumes. Il y a donc cet environnement religieux et cet environnement, on va dire, humanitaire, qui fait qu'on a poussé des gens là, à, quelque part, du travail en dehors des règles du droit en France. Voilà, et puis les conclusions arrivent, donc finalement, j'aurais pas été trop long. La question qu'on posait un petit peu au départ, c'était est-ce qu'on peut éliminer des dérives sectaires, dès lors qu'elles sont suffisamment connues, analysées, et qu'en plus la justice est passée dessus pour caractériser les délits. Est-ce qu'après condamnation par la justice, ces dérives sectaires vont disparaître? Eh bien, on a bien vu que les trois quarts du temps, c'est pas vrai. on l'a vu pour la biologie totale et ses dérivés. Sur la question de la gourelle de Lisieux, elle a fait quelques années de prison. Apparemment, elle n'a pas fait les 5. Je ne sais pas encore ce qu'il en a été de ça, mais il semblerait qu'elle soit déjà partie en Espagne et que le risque, comme à chaque fois, c'est de reconstituer ailleurs. Parce qu'une fois qu'on a un savoir-faire, hein, pourquoi ne pas l'utiliser ailleurs ? Donc, c'est le risque qu'elle reforme une autre communauté ailleurs, mais ça, on n'y peut rien. Évidemment, elle a purgé sa peine et on a mis les compteurs à zéro.
Elle a eu 4 ans de...
5. Alors, 4 ans en première instance et 5 ans en appel, ça a été alourdi.
On doit l'avoir à l'œil, quand même, quand on les barre.
Si on est en Espagne, de toute façon, et puis quand les gens sont sortis, c'est même illégal, à la limite, de continuer à les surveiller. Quelles que soient les condamnations. Oui, les TM, c'est les travailleuses missionnaires, voilà. Donc, même cas, dans cette communauté religieuse, où il y a des choses qui sont connues depuis très longtemps, et où il y a déjà des analyses qui montrent que depuis des décennies et des décennies, l'institution religieuse, catholique ou autre, n'a pas réglé en temps utile ses dérives. Donc elle les a laissé se perpétuer, sachant que ça ne concerne pas que la France, mais il y a plusieurs pays du monde qui sont concernés par ces communautés. Bon, en dernier, je vous ai mis les enfants de Dieu, parce que ça, c'est vraiment caractéristique. Les enfants de Dieu, vous avez peut-être, vous qui êtes comme moi, 68 ans, ou... il y avait un groupe de chanteurs, les enfants de Dieu, dans les années 70, qui a fait des tubes, etc. Mais ça, c'était une secte de chez secte. Voilà. Qui a créé beaucoup de soucis, quoi. C'était dans la mouvance hippie, etc. Et avec les enfants, donc encore une fois avec des questions sexuelles un petit peu débridées, qui concernaient éventuellement des mineurs, etc. Et là, c'est très rare, les gens disent toujours, mais pourquoi on ne dissout pas une secte, hein ? Ça a été, cette organisation a été dissoute en 1978. Mais quelque part, ça n'a pas servi à grand-chose parce que ça a émigré au niveau mondial. Ça a changé de nom, ça s'appelait la famille, puis la famille internationale. Alors, je ne sais plus si actuellement, mais si vous tapez la famille ou la famille internationale, ils sont sur Internet. Avec une vitrine religieuse, donc comme si de rien n'était. Bon, la conclusion 2, on l'a déjà vu, hein, c'est que sur la question du consentement et des responsabilités, évidemment, de toute façon, en dernier ressort, il n'y a que la justice qui peut trancher, parce que chacun va avoir des avis différents. Et pour nous, personnellement, ben, la seule arme d'autodéfense par rapport à tout ça, c'est l'esprit critique. Hein. Ne tombons pas dans tout ça, parce qu'on est tous concernés, malgré tout. Un jour ou l'autre, ça peut nous arriver d'être en état de faiblesse ou d'être confronté à quelque chose de très attractif, parce qu'on a des idéaux ou des envies de je ne sais quoi. Donc, continuons à faire de la zététique. Merci de votre attention. Merci.